cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
Alors, il y a beaucoup de Québécois qui doivent rembourser le gouvernement parce qu'ils ont reçu de la PCU de trop, Félix.
Et on attendait finalement hein, ce fameux moment-là où le gouvernement fédéral et ses grosses griffes et ses grosses dents allaient dire « Hey, finalement, on a trop versé ou vous n'aviez pas droit à cette prestation. » Et bref, Jules Richer du Bureau d'enquête nous apprend aujourd'hui qu'il y a 296 000 Québécois qui doivent toujours près d'un demi-milliard de dollars au gouvernement fédéral pour rembourser de la PCU qui a été versée en trop pour l'année 2020. Pour certains, là, ils ont tardé à payer, mais c'est surtout Ottawa qui a tardé à les réclamer. Il a seulement commencé, le gouvernement fédéral, à envoyer des avis de dette en novembre 2021. Et ça s'est étiré jusqu'au mois de juillet dernier. Alors, je voulais juste faire le suivi sur la PCU, puisque nous, moi et toi, on en parle assez souvent de ces chèques-là. Alors bon, mais ce que je trouve plus intéressant, peut-être, ou ben pas plus intéressant, ce que je trouve également intéressant à mentionner, c'est que bon, les Québécois sont plus visés en proportion là par les avis de remboursement de la PCU qui est émis par l'agence de du revenu du Canada.
Ah oui, mais quoi, il y a plus de fraudeurs au Québec? Ou...
Ben écoute, je sais pas s'il y a plus de fraudeurs, mais il y en a plus qui ont eu droit à de la PCU qui, normalement, finalement, si on regarde les règles en place, n'y auraient pas droit. Ce que je trouve encore plus intéressant maintenant que tout ça est dit, mentionné, c'est que le gouvernement fédéral ne peut pas dire encore, à l'heure actuelle, combien de cas de fraude il y a eu avec la PCU. Et ça fait toujours l'objet d'une
enquête. On se souvient, quand le gouvernement a commencé à donner de la PCU, la directive que Justin Trudeau avait donnée à ses fonctionnaires, si jamais vous recevez des demandes puis ont l'air bizarres, là, commencez pas à faire des enquêtes, c'est pressant, c'est urgent, envoyez le chèque.
Exact.
Une fois que ça va être fini, si on a envoyé trop d'argent, on va le récupérer. C'est ça la directive qu'il avait donnée.
Oui. Oui, et c'est à ce même micro que nous nous étions dit, aïe aïe, attends de voir comment ça va aller quand le gouvernement fédéral devra récupérer la PCU.
Et voilà.
On supputait que ça était pour être compliqué, ben je pense que c'est, la preuve est faite par quatre que ce l'est.
Alors écoute, il y a un gars qui a perdu sa job, c'est un de tes amis ça, tiens, Salvatore Cazzetta.
Ben c'est des gars qu'on surveille effectivement quand on couvre la justice, le crime organisé, les affaires policières. Salvatore Cazzetta, il a un parcours assez intéressant au sein des Hells Angels parce que d'abord c'est pas un Hells Angels. Au départ là, si je te fais son histoire un peu, lui, il va croiser une des figures marquantes du crime organisé là à la fin des années 70 là dans le club de motards les SS à Montréal. Qui est cette figure marquante? Maurice Boucher. Bon, Salvatore Cazzetta va faire son petit bonhomme de chemin. Il va intégrer les rangs des Rock Machines, les ennemis jurés de Maurice Boucher, qui lui était le chef guerrier des Hells Angels. Pendant la guerre des motards, Salvatore Cazzetta, lui, il est emprisonné pour une vaste affaire de trafic de drogue aux États-Unis. Il va revenir quand la guerre est terminée. Et en 2005, de guerre lasse, il va choisir il va consentir à devenir un Hells Angels lui aussi. Donc, 2005, il est fait membre du chapitre de Montréal. Salvatore Cazzetta, on l'appelle la barbe. Hein? Il a l'air et la chanson d'un motard quand on le regarde. Bon, alors Cazzetta a été décrit et ça, selon certaines sources policières, faut bien le dire, c'est un peu une construction médiatique, disent-ils, que l'on a fait de Cazzetta en disant que c'était le chef des Hells, le numéro un. Mais bref. Pour plusieurs, c'était le Hells Angels le plus influent du Québec. Il n'est à pas douter pendant des années. Puis là, on apprend qu'au cours des dernières semaines, ce Hells du chapitre de Montréal s'est fait forcer à la retraite. Alors, pourquoi forcer à la retraite? Parce qu'il semble, puis ça là, Richard, et puis Jean-François en régie, là, je vous demande à vous deux, gardez cet extrait en banque, enregistrez-le, notez la date et l'heure. Il y a beaucoup d'ébullition dans le monde criminel présentement. Je dirais même qu'on n'est peut-être pas loin d'un changement de garde qui pourrait se faire sans remous ou avec beaucoup de remous. Et notez ça. Alors, Salvatore Casetta, dans ce contexte, s'est fait indiquer la sortie. Et on l'a vu pour la dernière fois avec ses fameuses couleurs, là, ses patchs, lors de ce que les Hells Angels appellent la last run du chapitre du Nouveau-Brunswick. Là, à chaque année, les Hells Angels, selon leur règlement, leur charte, doivent faire une première sortie à moto, puis une dernière sortie à moto pour ouvrir et clore la saison. Alors, c'est là qu'on le vu avec ses couleurs à l'automne pour la dernière fois. Et là, il semble que, boum, il est à la retraite, mais il est parti, Richard, en ce qu'on appelle, parce que tout est en anglais, hein, dans la, les chartes, oui, les règlements des Hells Angels, en good standing. Et ça, c'est bon pour lui.
OK, mais attends une minute, là, y a-tu des recours, y a-tu un syndicat, Casetta, et peux-tu aller aux ressources humaines des Hells Angels, y a-tu quelque chose?
Écoute, je vais te surprendre en disant que Il aurait un certain recours, non, entre guillemets. Oui, c'est s'adresser à cette super structure qui s'appelle la structure East Coast, qui chapeaute un peu tous les chapitres là de l'Est du Canada, puis dire, écoute, je suis pas content, je voulais pas. Mais en fait, là, Richard, le départ des Hells Angels, ça se fait de manière administrativement assez particulière. Hein. D'abord, il y a un vote dans le chapitre. Il y a un vote pour que le membre quitte et qu'il quitte en good standing. Parce que tu peux partir en bad standing ou en good standing.
En bon terme ou en mauvais terme. Donc, il est parti en bon terme. Veux-tu me dire, tu sais, le nom Salvatore Casetta, on se demande pourquoi il n'est pas dans la mafia italienne, pourquoi il est dans les Hells.
Ah, ben oui, effectivement. Mais en même temps, tu ne seras pas surpris d'apprendre que Salvatore Casetta a été proche de plusieurs mafieux, donc siciliens, entre autres, là, de Montréal pendant des années, étant donné ses origines italiennes. Donc ça, c'est intéressant à mentionner. C'est intéressant aussi l'affaire du good puis du bad standing, parce qu'au fond, quand tu te fais, tu sais, on est en train de remarquer, Richard, rappelle-toi, là, il y a une vingtaine d'années, la guerre des motards dans ces eaux-là, les méthodes d'aujourd'hui tranchent énormément avec les jugements sans appel et les purges internes des Hells Angels pendant la guerre des motards. Tu te rappelles, plutôt que d'arbitrer ces conflits-là en prenant un vote puis en mettant quelqu'un sur une voie de garage, on le tuait. C'est arrivé à Scott Steiner, c'est arrivé à bien d'autres pendant la guerre des motards. Puis récemment, depuis 2010, on a décidé, il semble, d'être plus poli dans notre exercice dans l'arbitrage de ces conflits-là, puis de laisser les membres partir.
Mais tu sais, on rigole, mais c'est vraiment comme une business. Hein. Tu sais, mettons, si t'es un mauvais PDG d'une entreprise, les membres du CA peuvent te renvoyer. Fait que c'est quoi, les Hells Angels ont regardé l'argent qu'ils ont fait au cours des dernières années, le chiffre d'affaires, puis ils ont dit, ben là, Casetta, c'est pas un bon chef, on va le sacrer dehors. C'est un peu comme une business.
C'est pas pour rien, c'est pas comme une business.
C'est une business.
Charles, c'est une business. C'est-à-dire, c'est pas pour rien que les rapports policiers, tant de la GRC, le renseignement policier, que la Sûreté du Québec, parlent de l'entreprise criminelle aussi des Hells Angels, de l'entreprise criminelle des Italiens. Exemple, tu sais, les Européens sont beaucoup plus avancés dans la perception économique du crime à certains égards. Je lisais les derniers chiffres sur la Camorra, la mafia napolitaine, qui a généré, parce que là les Italiens là surveillent de près, eux, financièrement, la puissance des organisations financières. Puis la Camorra est en train de monter. D'abord, la Camorra, c'est la plus vieille mafia d'Italie, hein, c'est plus vieux que la Cosa Nostra. Ben oui, parce que la Cosa Nostra c'est américain, mais c'est plus vieux que la mafia donc sicilienne, c'est plus vieux que la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, beaucoup plus vieux. Et on disait que le chiffre d'affaires, parce qu'on lui accole un chiffre d'affaires pour 2021, se situe n'importe où entre 6 milliards et 12 milliards d'euros. Alors viens pas me dire que c'est pas une business.
C'est une vraie business, une business qui rapporte. Imagine-toi si on enlevait l'argent qui provient du crime organisé, du système économique, on ferait faillite. Merci pour cette chronique économique avec Félix Séguin du bureau d'enquête. On se reparle demain.
Bonne journée. Yves Daou va être jaloux. Okay. Oui.